à fleur de peau.
Histoire de la batterie, chapitre 4.
Roy! Hey!
Philly Joe Jones! Elvin Jones! Triolet, 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 triolet. Olé, 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 did it.
Déjà orphelines du bebop, amantes et veuves noires du parkérisme, tendres et meurtrières, aventureuses et nostalgiques, les fertiles années 50 allaient être pour les gens de cymbales et de peau la décennie de toutes les audaces, de toutes les expériences, de tous les iconoclasmes, en même temps que celle des certitudes, des académismes, des frilosités parfois, des retours en arrière. Elle verrait à la fois s'avancer Elvin Jones et Joe Jones revenir en souplesse plus qu'en force sous les balais et dans les Charleston de ses disciples. On en retiendra surtout de cette époque bénie le formidable appétit de virginité, comme si au bout d'un demi-siècle, jazz pouvait encore renaître de la rosée du matin. Ces années-là seraient celles de la fraîcheur, celles qui proposeraient des réponses avant même d'inventer les questions correspondantes. Il y aurait en vrac les tambours lyriques de Max Roach et de Shelly Manne, les brousses de Blackie, la jungle urbaine de Philly Joe Jones. Il y aurait le vent et le sable caressés par Chico Hamilton, l'élément fluide où Paul Motian mesure ses gestes et le silence sur quoi Roy Haynes bâtit des châteaux en Espagne qui existent vraiment et le silence d'où Roach extrait des rumeurs prodigieuses. Il y aurait les grands espaces et les portes étroites, les frisbees de l'aube et les grondements du crépuscule. Il y aurait l'extrême pudeur de Vernet Fournier et l'exhibitionnisme splendide de Buddy Rich, l'arrogance de Buddy, l'élégance de Connie Kay, la courtoisie de Connie, l'agressivité voluptueuse de Roy, et puis Joe Morello dans son magasin de porcelaines incassables, et d'abord Denzil Best qui vous fabrique un univers avec trois fois rien, et encore Stan Levy, Dave Bailey, Donald Bailey, Larry Bunker, Danny Richmond, et Louis Belson, Sonny Payne, Sam Woodyard, Art Taylor, Louis Hayes, et surtout Mel Lewis, l'improbable le mariage du fer avec la fumée et déjà Elvin et bientôt Sonny Murray.
Marseillaise qu'on entendait au début. Il s'agit d'un morceau enregistré dans un club américain. Et un morceau merveilleux qui mettait en scène le trio d'Ama Jamal avec à la batterie Vernel Fournier, batteur pour batteur, s'il en fut.
Tout à fait, c'est-à-dire que nous rentrons dans un monde absolument nouveau encore, puisqu'il s'agit maintenant de l'art de la respiration. Nous avons évoqué les roulements, les cymbales, les tempos, les grosses caisses, tout ça. Nous n'avons pas parlé de la respiration. On avait évoqué dans une des émissions précédentes le poumon de l'orchestre qui était le batteur ou le timbalier de l'orchestre symphonique. Et bien, de la même manière, le batteur, lorsqu'il joue dans un cadre d'un trio, doit apprendre à faire respirer la musique et à être au service de la musique pour les autres. Et là, il y a un phénomène nouveau, relativement, c'est le travail du premier temps. On entend une barre de mesure et il y a le premier temps et il y a la phrase musicale. La phrase musicale chevauche 2, 3, 4 mesures, mais le point de repère est toujours pour tous les musiciens the one, c'est-à-dire le 1 qui est fondamental pour qu'on soit en commun dans une même audition musicale. Je vais dire le premier temps de chaque mesure à voix haute, soit 1 pour la première mesure, 2 pour la deuxième, 3 pour la troisième et 4 pour la quatrième. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ce qui correspond à un point de repère fondamental pour les autres musiciens lorsqu'il s'agit de se repérer dans la grille. Et ce 1 est l'élément fondamental de toute la musique. C'est-à-dire cette façon de faire propulser la musique soit sur une sonorité, soit sur un silence. Nous avons tous en commun ce point de repère. C'est un jeu et il s'agit en fait d'une batterie piège. Pourquoi la batterie piège? Je crois qu'il nous faut revenir à Kenny Clarke pour ça. Il avait une figure au Blue Note qu'il aimait particulièrement faire lorsque les musiciens venaient faire le bœuf. Alors quand un bœufeur ne lui plaisait pas, eh bien, il avait une figure absolument imparable pour voir si le musicien était prêt à tenir le tempo véritablement. Est-ce qu'il entendait vraiment ce qu'il jouait ? On a l'impression d'accélération et de ralenti. Il n'y a aucune accélération, aucun ralenti, puisque si le musicien écoute bien la Charleston et la grosse caisse, on est toujours dans le temps. Or, Kenny faisait la chose suivante. Il jouait cette figure pour voir si donc le saxophoniste qui était devant lui, parfois inexpérimenté, allait se rattraper dans un 4-4, par exemple. Et si Kenny poussait un peu plus loin le vice, si je puis dire, il enlevait la Charleston et la grosse caisse, ce qui était redoutable. Aucun point de repère, on a l'impression d'une accélération de ralenti, et c'est ce que, donc cette batterie piège est un des phénomènes fondamentaux, finalement, dans un jeu qui est bon. Le but n'est pas de piéger les musiciens, bien sûr, mais le but c'est d'arriver à jongler véritablement, de passer par-dessus, de gommer la barre de mesure, et de jouer de véritables phrases musicales.
La batterie piège, celle qui met le soliste sur la corde raide, pour reprendre une très heureuse expression de Daniel Humer dans un vieux jazzote, c'est la batterie que représente admirablement, et pour le premier d'entre eux, dès la fin des années 40, Roy Haynes, Philly Joe Jones, Elvin Jones. Nous allons parler de ces trois personnages, de ces trois figures véritablement incontournables, tant pis pour le mot. Mais avant cela, je voudrais vous proposer une petite récréation. Ce sera aussi un petit cadeau que je vous fais. Je vais vous faire entendre au ballet un solo de Schellimann qui est un modèle de musicalité parce qu'on voit comment une même formule rythmique formant cellule va évoluer à travers les mesures en nombre défini de quelques chorus.
nous venons d'entendre, bien entendu, est une illustration directe de ce que j'ai joué tout à l'heure. En fait, ce 1, il y a une phrase musicale, c'est une vieille histoire qui date d'ailleurs de Tony Spargo et de l'original d'Excellent Jazz Band. Ne croyons pas que c'est une nouveauté. C'est-à-dire de jouer un feeling de 3 dans une mesure à 2 temps, si c'est séparé, ou un feeling de 3 dans une mesure à 4 temps. C'est-à-dire, en réalité, déplacer une phrase où il manque un soupir et la déplacer systématiquement, en décalant systématiquement au fur et à mesure des mesures. Alors, on trouve une chose tout à fait absolument formidable, c'est que si on ne repère pas le premier temps, on est immédiatement perdu.
Notre exemple à Un poco loco par Schellimann est très intéressant parce qu'il montre que, ce dont vous parliez à l'instant, la musicalité fait faire l'économie de la virtuosité. On a l'impression d'un soliste éblouissant. Or, c'est un solo hémiplégique. Il est fait avec le pied droit et la main droite qui tient deux balais à la fois, révélation de Schellimann, relativement récente d'ailleurs, on ne l'a su que grâce à une interview des années 80, alors qu'il s'agit d'un disque des années 50, et c'est quelqu'un qui, tout en ponctuant ça par un petit peu de tambour de basque frappé certainement sur son genou gauche avec la main gauche, nous fait donc évoluer une formule qui n'est seulement que ta-ta-ta-ta. Et ta-ta-ta-ta, ça devient cette merveille où on a l'impression qu'il faut avoir fait tous les conservatoires du monde pendant 25 ans pour arriver à approcher de très loin ce qui se passe.
Alors le problème, justement, c'est que l'on confond aujourd'hui technique et rapidité. Imaginez une seconde, quelqu'un qui joue extrêmement rapidement, on a l'impression qu'il a de la technique. En réalité, il a une exécution rapide de certaines phrases, mais certains musiciens jouent pas vite du tout, mais ont une technique absolument fantastique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une technique auditive, parce qu'ils placent les phrases d'une certaine manière et que c'est la façon dont ces phrases sont articulées qui rendent l'audition tout à fait extraordinaire. La maîtrise du mouvement, la maîtrise du son et la maîtrise des nerfs, c'est-à-dire apprendre à prendre son temps. Je crois qu'aujourd'hui, l'un des grands problèmes, c'est que notre instrument est assimilé à la rapidité et à éblouir les gens. Ça éblouit les gens peu, disons, qui ne s'intéressent pas beaucoup à l'instrument ou qui ont l'impression, bon, le musicien est un peu spectaculaire. Et ça, c'est presque le côté négatif de cet instrument.
Mais je rappelle que Bill Evans, qui a eu l'occasion de travailler, lui, avec les plus grands, Motian, Philly Joe Jones, Jacques Dejonette et bien d'autres, disait toujours, moi, le batteur que j'ai regretté de ne pas avoir dans mon trio, c'est Denzil Best. Et Denzil Best était quelqu'un qui, non pas seulement dans un morceau, mais pour toute une séance, était capable de jouer au ballet sur la caisse claire Shabada sans une seule syncope.
Mais vous savez, Alain...
Et c'était sublime. Mais comme disait Blackie, il vous rendait fou.
Mais vous savez que c'est le cas de Dave Tough, dont nous n'avons pas parlé beaucoup.
Qui lui n'avait aucune virtuosité.
Aucune virtuosité. C'était le contraire de Krupa, c'était son contemporain. Il n'avait aucun succès vis-à-vis des gens. Aucun. Parce qu'après, il a remplacé Krupa chez Benny Goodman. Et il est arrivé, il n'a fait aucun spectacle. Il a joué au ballet. Simple, tout bête, très simple. Et c'était magnifique, les exemples que nous avons de ce batteur sont extraordinaires et c'est diamétralement opposé à quelque chose du monde de
D'accord, pour dire avec moi qu'il y a en gros trois races de batteurs. La première, ce sont ceux qui jouent pour le public. La deuxième, ce sont ceux qui jouent pour d'autres batteurs qui se trouveraient éventuellement dans la salle. Et la troisième, ce sont ceux qui jouent pour les musiciens avec lesquels ils se produisent. Et ceux-là seulement sont les grands batteurs.
Faire un roulement en soi, c'est facile. Il suffit de travailler un certain temps par jour d'une façon absolument méthodique. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est d'arriver à placer ce roulement dans un contexte musical d'une façon absolument parlante pour que ça ne détruise pas la musique et pour que ça donne à la musique la possibilité d'avancer et pour qu'il y ait une vaste courbe, non seulement au niveau d'une phrase musicale, mais au niveau d'un chorus, mais au niveau d'un morceau, au niveau d'une première partie de concert et au niveau d'un ensemble d'un concert. C'est-à-dire qu'il y ait une courbe montante dans la façon dont on organise les sons et la façon dont on joue les rythmes.
Deuxième partie de l'émission, on va se livrer avec nos auditeurs à un petit jeu, puisqu'on va entendre les trois batteurs dont nous avons parlé, successivement avec le même musicien, et tout cela enregistré en très peu de mois, finalement, et vous allez voir que ça donne trois musiques extraordinairement différentes l'une de l'autre. Le musicien est Sonny Rollins, c'est le premier de ses percussionnistes qui l'accompagne, c'est précisément Roy Haynes, le morceau « Mangoes ». «
Lorsque Sonny Rollins enregistre Mangos, musique de ses îles natales, revue et corrigée à travers sa propre sensibilité et celle de son batteur Roy Haynes, nous sommes en juin 1957. Roy apparaît pour qui sait l'entendre comme un révolutionnaire, parce que comme le véritable père de Tony Williams, de Jack, de Jonette, qui n'apparaîtront que dans les années 60. Mais c'est un révolutionnaire qui révolutionne la batterie depuis déjà 10 ans à cette époque. Et finalement, c'est quelque chose qui ne s'est su que relativement tard, comme si c'était un des batteurs qu'on avait su le plus mal écouter, Roy Haynes.
Roy Haynes est un personnage tout à fait à part dans l'histoire de la batterie. Il a d'abord, peut-être on peut dire, l'un des premiers donnait à la Charleston une importance tout à fait capitale. Philly Joe Jones avait déjà joué la Charleston d'une certaine manière, mais Roy Haynes lui a donné une dimension tout à fait particulière, en cherchant un certain nombre de sonorités combinées avec des rimshots, par exemple, sur la caisse claire. Je peux en donner un exemple.
Roy Haynes, c'est un homme qui joue beaucoup moins souvent afro-cubain qu'Art Blackie, mais en revanche, c'est un homme dont l'art s'inspire, même lorsqu'il ne joue pas sur des rythmes latins, de la technique des timbales de la musique latine.
Et Roy Haynes est reconnaissable parmi tous les batteurs. Vraiment, il a un son, on dirait que Elvin Jones a un son à lui, Tony Williams a un son caractéristique, mais Roy Haynes est vraiment tout à fait exceptionnel.
Alors le petit et nerveux Roy Haynes a dû attendre 15 ans pour voir émerger ses disciples. Il y a en revanche quelqu'un qui, à la même époque, ce milieu si fertile des années 50, ne pouvait pas inventer une seule figure sans qu'immédiatement un bon millier de batteurs à travers le monde n'essaie de l'imiter. C'était Philly Joe Jones, que nous allons entendre auprès du même Sonny Rollins, dont le morceau « As a Surrey with a Fringe on Top ». Et nous ne sommes que quelques mois plus tard, en septembre 1957.
Première constatation, il n'y a pas de contrebassiste. Et on entend très discrètement la grosse caisse tous les temps, comme vous l'avez remarqué. Donc en fait, cette grosse caisse joue toujours le rôle fondamental de la basse, mais le principe même est toujours cymbale tempo, c'est-à-dire la cymbale de la main droite joue le drive, la Charleston joue 2-4, la main gauche ponctue le discours du soliste, et c'est sur cette base-là que se construit toute la musique entre Rollins et Philly Joe Jones.
Alors 1957, c'était véritablement l'année de l'état de grâce pour Rollins, puisque non seulement il avait enregistré avec Roy Haynes, avec Philly Joe Jones, nous voulons de l'entendre, avec Shelly Manne, nous ne l'entendrons pas, mais aussi, quelques mois plus tard, nous étions en septembre, nous voici en novembre, toujours en 1957 donc, avec Elvin Jones, et ça va être le début d'une autre révolution, Old Devil Moon au Village Vanguard. Thank you. qui nous avions un batteur qui jouait cha bada cha bada cha bada, une figure de trois notes. Il y a des batteurs qui la conçoivent autrement, qui jouent les quatre temps à peu près égaux, cha da cha da cha da 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 avec ce bada. Et voilà que Elvin Jones invente cette chose extraordinaire. Il va lui accentuer le bas, cha bada cha bada cha bada.
Alors on entend effectivement ceci, ti ti pa ti ti pa ti ti pa, et je suis à quatre temps. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre cette chose tout à fait fascinante maintenant, que jouer de la batterie, c'est être constamment en déséquilibre. Et il faut non seulement chercher l'équilibre, mais travailler. Elvin Jones travaille le déséquilibre. Et le déséquilibre est tel qu'aujourd'hui encore, ce disque marque toute l'histoire du jazz. Et le phrasé d'Elvin est ceci.
Beaucoup de batteurs qui avaient mal compris Kenny Clarke, batteur des années 50, j'entends, l'unité c'était le shabada, c'est-à-dire une demi-mesure.
Oui.
Avec Elvin Jones, l'unité c'est une séquence rythmique qui peut s'étendre sur 4, 8 mesures, parfois davantage, lorsqu'il est avec John Coltrane.
Il n'y a qu'à prendre par exemple dans le morceau Softly as a Morning Sunrise dans le même disque et d'essayer de repérer où est le 1 dans sa partie de ballet en solo. Pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment, comment il manipule, j'allais dire comme un boulanger manie la pâte, voyez, il triture la pâte d'une manière absolument extraordinaire.
Cela dit, dans le jazz des années 50, comme dans toute forme d'art, il n'y avait pas que des découvreurs, des défricheurs, des aventuriers. Il y avait aussi ceux qui consacraient leurs efforts à parer l'acquis des époques précédentes, de l'éclat de l'évidence, avec une maîtrise si phénoménale qu'en soi, elle est une certaine forme de poésie. Et de cela, l'empereur, c'était bien sûr Buddy Rich, que personne n'a encore détrôné. Buddy que nous écoutons dans « From the Sticks ». Pour l'avant-dernière fois, nous allons tourner la page de cette toute petite, toute modeste histoire de la batterie de jazz. George Pagzinski et Alain Gerber, qui ont eu la tâche pour eux très pénible de laisser bien des aspects de cette épopée dans l'ombre, voudraient se racheter en dédiant ce quatrième chapitre à l'homme sans qui il ne serait pas là ce soir. L'un a joué de l'instrument, l'autre a en rêvé debout. Un musicien d'exception, Daniel Humer. Peut-être n'est-il pas à l'écoute, mais c'est parce que dans notre jeunesse, nous l'avons, lui, beaucoup écouté, que nous avons eu envie de raconter nos folles amours tambourinaires à fleur de peau, c'est ce qu'on dit pour dire doucement les choses. Et puisqu'il est question de fleurs, il faut citer les jardiniers de l'émission, vous commencez à les connaître, Marie-Cécile Mazzoni et Gilles Pézera, ceux qui ensemencent, qui greffent, qui bouturent, qui cueillent et composent les bouquets. Ce ne sont pas des hirondelles, mais ils ont fait le printemps. Allez, demain, une autre émission avec Tony Williams, Jack DeJohnette et tous ceux qui, après 1960, ont fabriqué, eux aussi, la pluie et le beau temps.
Prochain rendez-vous avec le rythme et la raison, demain.